Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et bienvenue dans Ici l'Europe. Nous recevons sur France 24 et Radio France Internationale notre invité du jour. Au lendemain de la confirmation de la commission von der Leyen II et alors que l'Est de l'Europe est plus déstabilisé que jamais par les efforts de guerre hybride de la Russie, nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Maria Gabriel. Bonjour, nous sommes avec vous en duplex de Sofia. Vous êtes une Bulgare qui a officié dans toutes les institutions de l'Union européenne. Vous avez été 7 ans députée européenne, 5 ans commissaire européenne dans la commission Juncker d'abord et puis dans la commission von der Leyen 1 chargée de l'innovation et de la jeunesse. Et puis vous êtes rentrée dans votre pays, Madame Gabriel, la Bulgarie, pour signer un accord entre votre parti de droite, le GERB, arrivé en tête, et l'opposition libérale pro-européenne pour partager le pouvoir, accord qui a volé en éclats, provoquant une nouvelle crise politique. Alors aujourd'hui, vous dirigez l'Institut Robert Schuman, le think tank du Parti populaire européen, la droite traditionnelle. Donc, avant de parler évidemment de votre pays et de l'Est de l'Europe, vous avez sûrement regardé avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé pour la Commission von der Leyen 2 devant le Parlement européen le mercredi 27 novembre, un vote. Alors, le résultat est de 370 voix pour 282 contre. Cela semble a priori confortable, mais c'est la majorité la plus étroite de tous les temps, en vrai.
Oui, en effet, j'ai suivi de près, en effet, forte d'une expérience qui me permet à la fois d'avoir un regard de comment fonctionne le Parlement européen, la Commission et le Conseil. Aujourd'hui, justement, à cause de ce regard, j'ai une certaine perspicacité, c'est-à-dire de se rendre bien compte il y a énormément d'espoir et d'attentes qui sont placées dans la nouvelle commission. C'est une commission qui affirme des ambitions, mais c'est aussi une commission qui doit, à ce moment-là, vu la diversité de la majorité du vote du 27 novembre, doit opérer avec beaucoup de minutie, si j'ose dire, en fonction des différents sujets. Les sensibilités politiques font en sorte que, en fonction des sujets, on pourrait s'attendre à ce que la majorité soit relativement flottante. Or, aujourd'hui, plus que jamais, l'Europe a besoin d'une majorité stable, d'une majorité où chaque institution assume sa responsabilité de maintenir l'Europe unie face à tous ces défis qui nous entourent, mais aussi d'avoir une Europe qui répond clairement aux attentes des citoyens, tout comme de positionner l'Europe dans un monde de plus en plus en compétition. Donc, comme vous le voyez, je pense que ce qu'on pourrait attendre, c'est d'avoir une commission qui aura l'ambition de faire des choses, mais qui devra à ce moment-là jouer avec beaucoup de tact diplomatique les majorités sur lesquelles va s'appuyer.
Mais alors justement, c'est la question qui se pose pour cette commission von der Leyen II. Quelle majorité ? Parce que finalement, un représentant du groupe des conservateurs et réformistes proche de Giorgia Meloni, donc beaucoup plus à droite que votre parti populaire européen, pour la première fois accède à une vice-présidence de la commission. Avec donc cette extrême droite, il y avait un cordon sanitaire jusqu'à présent. La gauche et une partie du centre reprochent donc d'avoir brisé ce cordon sanitaire, qu'en est-il ?
Moi, je pense que la commission est une commission qui doit prendre en considération les résultats des élections. Il est clair qu'au moment des élections européennes, les citoyens ont envoyé des messages et ils ont élu des gens. Donc, c'est aussi le respect démocratique de pouvoir respecter ce vote. Maintenant, la question est quels sont ces sujets sur lesquels on va pouvoir envoyer des réponses par rapport aux questions qui ont été formulées aux élections européennes, telles la sécurité, la migration, mais aussi l'environnement, mais aussi l'agriculture, mais aussi le soutien à l'Ukraine. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit être beaucoup plus pragmatique et on doit adresser de façon très ciblée les questions que les citoyens ont posées.
Certains craignent une commission qu'on appellerait commission Pénélope, du nom de l'épouse d'Ulysse, qui défaisait la nuit son travail de tissage de la journée. C'est-à-dire que le jour, la commission va tisser des textes pour une industrie propre avec donc votre parti, le PPE et le centre. Et puis la nuit, elle risque de détricoter toutes les avancées du pacte vert, on l'a vu sur la loi contre la déforestation, en votant cette fois-ci avec la droite plus extrême.
Mais je pense qu'en Europe, nous sommes très forts à adresser des critiques sans avoir vu encore des actions. Et je pense quand même qu'il faut laisser la chance à cette commission, au moins pour ses ambitions qu'elle affiche dès 100 premiers jours, N'oublions pas ce qui a été annoncé le 27 novembre, c'est que la première initiative de la Commission, ça sera de la compétitivité. Qu'est-ce qui n'y est pas ? Est-ce qu'il y a un problème majeur et l'Europe de combler l'écart de l'innovation et de se positionner par au monde, ainsi soutenir nos entreprises ? C'est dedans. Qu'est-ce qui n'est pas ? La décarbonisation est liée. L'Europe est très forte. Elle va continuer dans cette voie. La question est de trouver vraiment l'équilibre entre préserver des emplois, créer des emplois, préserver des secteurs, encourager de nouveaux secteurs. De même, la question de la sécurité. Les 100 premiers jours, la question affirme son ambition de sortir un livre blanc sur la défense. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Europe a besoin d'investir massivement en défense pour pouvoir ne pas compter sur d'autres pour assurer sa propre sécurité. Donc, je pense qu'il faut donner la chance à cette Commission européenne de pouvoir véritablement sortir les premières initiatives, d'en débattre et d'en trouver des textes qui soient équilibrés, mais surtout des textes qui servent tous les Européens.
Alors parlons d'un sujet qui fait débat au Parlement, mais dans toutes les institutions, effectivement, générant d'ailleurs une mobilisation du monde agricole en France et en Pologne. Hormis ces deux pays, l'Autriche, la Belgique ou les Pays-Bas s'inquiètent également des conséquences possibles d'un accord entre l'UE et le Mercosur, donc l'Amérique latine. Est-ce que, au Parti populaire européen, on estime que cet accord va passer et qu'il est souhaitable ?
Moi, je pense que nous ne pouvons pas ignorer les demandes et les préoccupations de nos agriculteurs. L'Europe est une puissance agricole exportatrice. Pour nous, l'agriculture est un secteur clé. Donc aujourd'hui, je ne pense pas la question, c'est de s'opposer à tout traité de commerce et de libre-échange, parce que l'Europe doit se positionner. Si nous voyons ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de perdre de nouveaux marchés, de pouvoir négocier. Mais ceci doit se faire sur la base de la réciprocité, sur la base de la protection des intérêts des Européens. C'est les agriculteurs, mais c'est aussi nos ambitions par rapport à l'environnement. Donc aujourd'hui, je pense que les préoccupations doivent être entendues et doivent être reflétées dans la version finale de l'accord, qui en soi est une bonne chose.
Alors, partons en direction de la Roumanie, un pays voisin du vôtre, Maria Gabrielle, où il y a eu une grosse surprise. Le candidat d'extrême droite pro-russe, Calin Georgescu, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Rappel des forces politiques en présence par Nina Masson et Lucas de Villepin.
Il est le favori que personne n'attendait. Sans parti politique et grâce à une campagne à base de vidéos TikTok, Calin Georgescu, candidat d'extrême droite, se hisse en tête du premier tour de l'élection présidentielle roumaine, avec près de 23% des voix.
Nous ne sommes pas dans une simple campagne électorale, nous sommes dans un engagement, tous ensemble, les uns avec les autres, avec l'aide de Dieu. L'insécurité économique des 35 dernières années imposée au peuple roumain s'est transformée aujourd'hui en insécurité pour les partis au pouvoir.
Opposé à l'aide à l'Ukraine, hostile à l'OTAN et proche de Moscou, cet agronome de 62 ans a concentré sa campagne sur la flambée du coût de la vie et le rejet des élites.
C'est un vote de blâme à l'égard de la classe politique. La classe politique a montré qu'elle ne s'intéressait pas au peuple. Elle ne s'intéresse qu'à elle et à son enrichissement personnel.
Autre coup de théâtre, le Premier ministre sortant, Marcel Ciolacu, est éliminé dès le premier tour du scrutin, devancé par la candidate du centre-droit, Elena Lasconi. Le dirigeant social-démocrate a reconnu lundi sa défaite.
J'ai présenté ma démission de secrétaire général du parti. Je resterai aux côtés de mes collègues jusqu'à dimanche prochain. Lors des futures élections du parti, je ne serai candidat à aucun poste au sein du parti.
Le second tour de la présidentielle est prévu le 8 décembre prochain, qui pourrait confirmer la percée de l'extrême droite dans le pays.
Alors, Maria Gabrielle, je rappelle que vous étiez commissaire en charge de la désinformation. Est-ce que le réseau chinois TikTok, relayé par les robots russes, pour vous, a eu un impact déterminant dans cette élection et dans d'autres peut-être aussi ?
Il faut commencer en disant qu'aucun État européen n'est à l'abri de ce qui vient de se passer en Roumanie. Ensuite, se pencher sur la question du rôle des plateformes numériques, c'est une question à laquelle l'Union européenne travaille maintenant depuis des années. Et tout ce débat aujourd'hui sur interdire ou pas me rappelle le débat par rapport aux fake news et la désinformation que j'ai commencé en effet quand j'étais commissaire au numérique. Je pense qu'il faut faire très très attention parce que je me rappelle à cette époque-là combien c'était très facile d'instrumentaliser tous les arguments qui sont liés à la liberté d'expression, la liberté d'accès à l'information, ce sont des principes fondamentaux que nous devons préserver. Mais il faut se rendre aussi compte qu'aujourd'hui, ces plateformes numériques ont acquis un pouvoir à l'intersection entre la vie politique et la vie numérique. Donc aujourd'hui, je pense que ça serait trop simpliste d'interdire, d'autant plus qu'il faut des preuves, qu'il faut des évidences. Je pense en revanche que c'est beaucoup plus intelligent de s'attaquer à des problèmes, avoir des preuves et à ce moment prendre des mesures. N'oublions pas que TikTok a déjà été pénalisé. Au moment où l'Union européenne a adopté l'acte des services numériques, nous avons des règles qui sont très claires. Et cela a abouti à ce que TikTok ne lance pas, par exemple, son programme TikTok Lead en France, en Espagne, justement parce qu'il y a eu non-conformité par rapport à ces règles. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre préserver la liberté d'expression, le droit à l'accès à l'information, parce que les réseaux sociaux sont un moyen d'engager la conversation, le dialogue avec les citoyens. Il y a des opinions qui s'expriment. Ça n'est une autre de faire clairement la distinction de la lutte contre la désinformation, d'avoir de la responsabilité par rapport au contenu, d'avoir de la transparence algorithmique et aussi d'avoir à chaque fois des rapports d'impact systémique. Donc je pense que nous avons suffisamment d'éléments par rapport à l'acte des services numériques qui nous permet à ce moment-là d'établir clairement des faits et d'agir uniquement sur la base de ces faits. C'est ainsi qu'on va aussi convaincre les citoyens simples qui utilisent ces plateformes pour leurs besoins personnels. Nos actions sont des actions qui visent à protéger la démocratie, la vie démocratique, le dialogue, le débat.
En attendant, donc, Monsieur Georgescu, ce candidat pro-russe d'extrême droite a déjà fustigé à plusieurs reprises l'OTAN, l'Alliance Atlantique. La Roumanie est membre de cette organisation et dépense d'ailleurs 3% de son PIB pour la défense. Est-ce qu'elle est susceptible de se retirer ?
Je crois en la capacité des Roumains de défendre leur adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Parce que ce sont des choix qui sont réfléchis. Ce sont à la limite des choix civilisationnels. Donc aujourd'hui, c'est adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN, c'est partager des valeurs, c'est avoir des capacités communes de résistance, c'est aussi moderniser ensemble. Donc je crois qu'ici, la question est d'avoir suffisamment de masse critique, de personnes qui se mobilisent derrière ces principes pour pouvoir contrer des tentatives d'imposer une réalité différente. Et je pense que ça, c'est tout l'enjeu et nous devons le défendre à tout prix.
Alors, quand on parle d'influence russe, on pense aussi à votre pays, la Bulgarie. Maria Gabriel, après 7 scrutins législatifs, 5 premiers ministres en moins de 4 ans, 2/3 des Bulgares jugent la situation extrêmement préoccupante. Et votre président, Roman Radev, lui, est bien installé. Et peut-être d'ailleurs qu'on lui prête des sentiments pro-russes. Qu'en est-il ?
Aujourd'hui, toute l'Union européenne doit regarder plus attentivement ce qui se passe en Bulgarie. La Bulgarie a une position géostratégique extrêmement importante. N'oublions pas que le pays est la croisée des chemins entre la Turquie, l'Asie centrale. On peut aller plus loin et voir ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Donc il y a un véritable enjeu dans cette région-là. Et évidemment que cette région a fondamentalement changé depuis l'agression russe contre l'Ukraine. Aujourd'hui, nous voyons que c'est un nouveau champ de bataille, à la fois pour la propagande russe, pour des attaques hybrides, d'où l'appel véritablement pour l'Union européenne d'avoir une stratégie par rapport à la région de la mer Noire. Encore une fois, j'insiste, c'est stratégique par rapport à des sujets qui nous touchent de tous les jours. C'est, n'oublions pas la crise avec le blé, la nourriture. N'oublions pas l'énergie, n'oublions pas la collectivité, les axes nord-sud. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Bulgarie est extrêmement important.
En Bulgarie, vous aviez essayé de stabiliser ce gouvernement avec un accord de coalition entre votre parti de droite, donc le GERB, et le parti libéral pro-européen Nous continuons le changement Bulgarie démocratique pour partager le poste de Premier ministre. 9 mois. Alors, ils ont fait leurs 9 mois et puis ça a volé en éclats au moment où vous deviez devenir première ministre, j'ai envie de dire, avec des nouvelles élections en octobre où le GERB de Boyko Borisov est arrivé aussi en tête, mais dans les mêmes proportions. Est-ce que ça valait le coup ?
Je voudrais quand même préciser que les élections d'octobre étaient les deuxièmes après des élections de mois de juin. Donc quand même, il y a deux élections qui sont passées depuis. Mais ça montre encore une fois, combien c'est important d'avoir à ce moment dans le pays des responsables politiques qui tiennent parole et d'avoir aussi des responsables politiques qui aient un minimum de culture, de dialogue, de compromis et de respect envers l'un de l'autre. Parce que quand ces forces pro-européennes, pro-OTAN ne s'entendent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la force de travailler ensemble, évidemment que cette brèche est utilisée parfaitement par toutes ces forces pro-russes ou tout simplement anti-système qui permettent à ce qu'aujourd'hui le pays se retrouve immobilisé. Pas de gouvernement, pas de plan de relance, tout un tas de projets comme la zone euro doivent avancer beaucoup plus rapidement. Donc je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin de gens responsables, des gens qui se rendent compte que chaque jour qui passe, le monde bouge et la Bulgarie doit aussi avoir un gouvernement stable pour lequel c'est important de travailler ensemble avec la nouvelle commission pour pouvoir faire évoluer et développer le pays. Sinon, on laisse la place à toutes sortes d'attaques hybrides et de discours populistes qui n'amènent à rien.
Alors parlons d'un autre pays que vous connaissez bien et qui a du mal à avoir un gouvernement stable, la France en l'occurrence, qui explose les déficits autorisés et sera sans doute sanctionné par Bruxelles. Et puis on n'est pas sûr non plus que le gouvernement Barnier tienne jusqu'à Noël. Est-ce que l'affaiblissement de la France est malvenu dans cette Europe ?
Je pense que l'Union européenne a toujours eu et a toujours besoin d'une France qui soit stable, qui soit solide, parce que ce n'est pas un hasard si on considère la France comme l'un des moteurs de l'Union européenne. Donc j'espère véritablement que ce moment difficile sera traversé avec plus de sagesse. Et encore une fois, je pense que les mêmes arguments sont valides au moment où le monde est extrêmement instable, au moment où tous nos repères de l'ancien monde sont en train plus ou moins de s'effondrer, nous faisons face à des défis qui sont des défis de tous les jours. Nous devons véritablement faire preuve de responsabilité. Et pour moi, en France comme en Bulgarie, la responsabilité à ce moment-là, c'est de outrepasser ces petits calculs politiciens ou strictement liés à des élections pour pouvoir gouverner pour le bien des citoyens et pour le bien d'une Europe qui nous aidera à nous protéger dans ce monde ô combien instable et dynamique.
Donald Trump, qui va s'installer à la Maison-Blanche en janvier, recherche un accord pour terminer la guerre en Ukraine avant son entrée en fonction. On a vu circuler des plans pour convaincre Kiev d'abandonner une partie de son territoire et peut-être même l'interdiction d'adhérer à l'OTAN. Les Européens semblent être dans l'attentisme.
Moi, je ne pense pas que l'Union européenne est dans l'attentisme, mais l'Union européenne doit faire très attention d'abord de rester unie, parce que contrairement à tout ce qui était attendu, l'Union européenne a su rester unie avec tous les paquets de sanctions, le soutien à l'Ukraine. Défendre la sécurité de l'Ukraine, c'est défendre notre propre sécurité. Ensuite, l'Union européenne, de par justement le rôle qu'il a joué depuis le début de la guerre russe en Ukraine, doit être à la table. Mais au-delà de tout, je pense que le point de départ doit être très clair. Une paix en Ukraine, avec l'Ukraine et pour l'Ukraine, on ne peut pas faire une impasse. Donc je pense que l'Union européenne a une position qui lui permet de jouer. Maintenant, l'enjeu reste, encore une fois, je le dis, de rester unis. Donc il faut éviter des erreurs comme passer des appels entre différents pays ou avoir des réunions sans prendre en considération les autres. Je vois que ça commence petit à petit à faire son chemin. Mais aussi avoir une ligne très claire. Quelle est la position que nous défendons pour le futur?
Merci Maria Gabriel d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur France 24 et Radio France Internationale. Restez bien sûr sur nos deux antennes, l'actualité continue.